Cette semaine, dans le balado, on tente de se reconstruire, on forge des alliances improbables et on veut raviver la flamme de la passion. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut Pat.
Alors, je vais laisser le soin aux gens de deviner laquelle de ces phrases appartient au bon film.
Oui, c'est ça.
Parce que je pense que ça peut tout s'intercaler.
Ben... Écoute, la flamme et la passion, je sais pas si je le mettrais pour Godzilla.
Ben, on sent que Kong s'ennuie.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Il a l'air pas mal au début, mais c'est peut-être pas la passion.
Ben, écoute, on y reviendra, mais le réal disait qu'il y avait une idée déjà pour peut-être un troisième, un autre volet, fait que ça pourrait être finalement, c'est une relation amour-haine, là, un peu.
Ouais.
Faut consumer la flamme. Oui. Hey, on a un commanditaire cette semaine. Je vais commencer avec ça, si tu me permets.
Oui, vas-y, vas-y.
C'est la distillerie Stadaconé, qui est située en plein cœur de Limoilou, du quartier Limoilou à Québec, qui est un endroit à découvrir parce que peut-être vous connaissez leurs produits en SAQ, mais si vous êtes de la région, vous pouvez aller sur place. Ça fait bientôt 5 ans que Stadaconé offre une expérience immersive afin de faire découvrir son histoire et ses produits. Qui, écoute, long story short, Stadaconé, c'est quand même très en lien avec les Premières Nations qui étaient ici. Grâce à une visite réinventée, vous pouvez participer à un jeu d'évasion, oui, un petit escape game pour découvrir les secrets de la production de gin et déguster leurs spiritueux, liqueurs et plus encore. Et j'avais fait cette aventure-là il y a quelques temps avec des amis. C'est très léger, là, c'est pas un escape game d'une heure et demie, là, c'est genre 15 minutes. Là.
Mais quand même, c'est original comme proposition.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment le fun parce que t'es comme dans l'usine, fait qu'il y a comme beaucoup d'espace, fait qu'ils ont consacré un petit espace à ça. Dans le fond, si vous allez là-bas, vous aurez aussi la chance de voir comment sont produites les fameuses gin grilla, qui est comme un nouveau prêt-à-boire là, qui est très fort sur le marché. Stadaconé s'est amusé à réinventer la sangria avec justement ces prêts-à-boire à base de gin qui se distinguent grâce aux arômes donnés par de vrais jus de fruits. D'ailleurs, ils vont sortir la nouvelle gin grilla rosée aux saveurs de framboise, citron et de pomme grenade. En fait, elle est maintenant disponible. Et profitez-en pour redécouvrir la gin grilla classique, à saveur de canneberge et d'agrumes, et la gin grilla blanche au goût de pêche et de mangue. Fait que vous pouvez passer à la boutique de la distillerie Stadaconé à Limoilou ou bien vous rendre en succursale SAQ pour procurer les produits. Et petit hint, moi je suis surtout consommateur de leur gin, j'aime beaucoup beaucoup leur gin. Puis quand tu gardes tes bouteilles puis t'es ramènes là-bas, je pense que t'as 2$, si ma mémoire est bonne, de rabais. Fait qu'au lieu d'y mettre juste au recyclage, ben on essaye là, d'implanter là, au Québec là, l'espèce de consigne généralisée, blabla. Mais il y a certaines entreprises comme ça qui disent, ben tu sais, ma bouteille, moi si tu me la redonnes, ça fait mon affaire. Là. J'en nettoie puis on la réutilise. Fait bref, eux ils font une consigne sur leur propre bouteille.
Donc avant d'aller plus loin, c'est peut-être le moment d'aller se verser un verre, ouvrir une canette pour déguster.
Non, mais il est quand même tôt. Là, pour un gin grilla. Là. Écoute, on verra. Quand il y a peut-être que l'été sera plus à nos portes, là, les premiers blockbusters, là, super production du mois de mai, peut-être qu'on va filer. Là. je sais pas. Là, quel film il a l'air de faire chaud? Là. Le Cascadeur, il a l'air de
Cascadeur,
faire chaud.
Cascadeur, ouais, quand même.
Ouais. Puis, hein, bref.
Alors donc, un petit tour d'horizon des actualités de la semaine.
Hey, j'ai eu le temps d'en répertorier.
Ben vas-y.
On avait déjà un petit peu parlé du prochain Jurassic World, de la remouture, qu'on sait pas vraiment comment ça va s'appeler encore, personne le sait. Mais là, Scarlett Johansson serait en discussion pour être dans son prochain film, justement, de Gareth Edwards. Ben moi, je trouve ça très excitant. Là. Je pense que surtout, ça veut dire qu'on laisserait vraiment tomber... là. Ils vont donner un break enfin à Sam Neill puis toutes les autres parce que là ils l'ont ramené puis ça a été un peu un fiasco.
Ouais.
Puis fait que je pense pas qu'ils vont essayer de ramener des Chris Pratt puis des Bryce Dallas là, ça va être une nouvelle affaire. Mais ça va être écrit, je sais pas si tu l'avais dit, par David Koepp, lui qui avait scénarisé la première adaptation du Jurassic Park original là, du livre de Michael Crichton. Fait que c'est quand même de bon augure puis Gareth Edwards ben il est bon. Il est bon d'habitude.
Oui.
Fait que là, je sais pas, une grosse franchise comme ça, ça doit être mêlant un peu, là, mais s'il donne un peu à la Rogue One, là, tu sais, fais ce que tu veux. Ben c'était Gareth Edwards, ça?
Rogue oui, tout à fait. Okay,
parce qu'il y a un Gareth Evans aussi, puis des fois, je mélange. Là.
Et qui avait fait le premier Godzilla, d'ailleurs.
Oui, ben oui, donc, c'est vrai. Belle scène.
Non, moi, je suis curieux de voir, sachant que justement, une de ses forces, c'est le visuel, c'est les cadrages. Donc j'espère qu'on va être un peu émerveillé comme le premier Jurassic World d'ailleurs était Moi, j'avais vraiment quand même embarqué, j'avais été surpris.
En 2015,
ça... Ouais, c'est ça. Fait que malheureusement, ça s'est comme perdu avec les deux autres films. Mm-hmm. Mais j'espère qu'on va revenir un peu à la recette de ce qui fonctionne.
Puis Scarlett Johansson, qui lead une grosse franchise même, d'action-aventure comme ça, on n'a pas vu ça à date, là, elle.
À part des Marvel, mais tu sais, elle faisait plus partie d'un ensemble.
Exact, elle a eu son film solo suite à tout ça, mais tu sais, c'est un personnage déjà établi et autre. Fait que...
Non, ça serait une bonne prise, effectivement, si elle accepte. Ben justement, parlant de bonne prise, Mission Impossible 8 est en tournage en ce moment et a ajouté une nouvelle comédienne.
Ah, je pensais que tu allais dire de bonne prise dans le sens des plans de vue. C'était pour louanger Christopher McQuarrie.
Ben, ça peut être dans les deux parce que tu vas voir pourquoi j'ai utilisé le mot prise. Parce qu'on a Kathy O'Brien qui est dans Love Lies Bleeding en ce moment les affiches.
La custode.
La custode, oui, effectivement. Alors,
elle va être une méchante, c'est sûr.
Écoute, je pense bien. Là, je pense qu'elle a tout le casting désigné. Est-ce qu'elle va se battre contre Hayley Atwell?
Ben, c'est ça, j'allais dire. Ça, c'est un classique, là, comme dans les James Bond. Là. La Bond girl se bat contre la fille méchante, puis.
Tout à fait.
Les messieurs se battent ensemble.
Alors, on va pouvoir juger de sa performance l'an prochain, 2025.
Ouais, déjà, c'est ça. Ouais,
ouais. Ouais.
Hey, puis, il me semble. Je vais-tu trop vite? Je me demande si Jurassic World même...
C'est 2025 aussi.
Ben c'est ça, ça sort juillet prochain, là. Fait que dans comme 15 mois. Fait que...
Le tournage doit commencer.
Ben, j'espère que le scénario est pas mal fini, là. Oui. C'est ça. Fait que, ouais. Fait que finalement, peut-être que la rumeur de Scarlett Johansson...
Plus
si on
entend
parler, c'est que ça doit être pas mal vrai, là. Tu sais.
Ouais, ouais. Sinon, dans les reboots, dans les reprises...
ça, on n'en fait pas assez de ça.
Non, ouais, justement. Et surtout, des franchises surtout récentes en plus. Là.
Ah ouais,
donc,
OK.
On parle de Pirates des Caraïbes.
Ah.
On a finalement confirmé, le producteur Jerry Bruckheimer, qu'on repartait à zéro. Parce qu'il y avait des rumeurs à un moment donné qu'il y avait comme deux scénarios... qui avait été commandé, donc un avec évidemment Jack Sparrow et Johnny Depp, mais une autre version ou spin-off, on ne savait pas trop, avec Margot Robbie. En fait, elle était très intéressée à jouer dans ce film-là, dans la franchise. Et finalement, je pense que ces deux idées-là sont écartées. Il n'a pas renié l'histoire avec Margot Robbie, mais je pense qu'il dit pas pour l'instant. On va comme repartir la franchise et peut-être l'incorporer éventuellement dans un autre film. Mais bref, ce n'est qu'à les tout début. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de avoir des Pirates des Caraïbes? Je le sais pas.
Ben, c'est quand même le fun, puis surtout eux se disent ben ça a déjà été un gros succès.
Ouais.
Mon analyse à chaud de ça, c'est comme on peut plus en faire avec Johnny Depp.
Ça, c'est certain.
C'est un peu persona non grata, que ça peut pas être ça. Mais ils pourraient faire juste des spin-offs. Là. On va attendre de voir ce qu'ils vont présenter, juste dire ah, ça paraît être Pirates des Caraïbes 2 points. Je sais pas, là. J'ai aucune idée de nom de pirate pour l'instant. Là.
Ben, c'est sûr
Bob l'étrangleur. Puis c'est comme Assassin's Creed font, là, un peu de les jeux vidéo. Là,
mais l'autre problème.
Quest. Mais là, quand tu recommences, c'est que tu vas dire hey, ça va être de nouveau Jack Sparrow. Quel acteur peut être foufou puis être un peu Jack Sparrow? Puis là, on va présenter plus sa jeunesse.
Il y a différentes avenues. Soit qu'on part carrément avec de nouveaux personnages puis qu'on élimine Jack Sparrow,
c'est
probablement plus intéressant.
Plus spin-off à ce moment-là, d'autres pirates qui vivent des aventures pendant ce temps.
Puis le problème, c'est que t'as Orlando Bloom et Karen Knightley qui sont plus non plus des grandes vedettes comme ils l'étaient à l'époque. Là. Fait que, même si tu décides de revenir avec eux, je pense que t'as un risque un peu financier parce que je pense que les comédiens attirent moins la foule. Là. Fait que... Parce qu'elle se rappelle que c'est un de leurs enfants ou je sais pas trop quoi.
Ouais, mais même le dernier, c'était ça. C'était comme l'enfant de Orlando Bloom, mais de son personnage.
Oui, c'est
là,
vrai,
de Will
parce
Turner,
qu'il
là,
prenait la place sur le bateau à la fin.
Ouais, c'est ça, exact. Fait que...
J'avais complètement oublié.
Bon, tu vois. Ben, il avait passablement moins fonctionné aussi, d'ailleurs.
Ouais, effectivement. Sinon, dans les annonces aussi de projets potentiels assez intéressants, Jeremy Allen White, qui est vraiment la nouvelle coqueluche Hollywood, évidemment, qui avait joué dans The Iron Claw dans le temps des fêtes, surtout connu de Bear à la télé.
Ah, j'allais dire la pub de...
Oui, mais oui,
j'oublie vrai. Toujours si c'est Hugo Boss ou Calvin Klein. Là,
je pense que c'est Calvin Klein, non, effectivement. Voilà. Oui, les pubs en bobettes de Calvin Klein.
Exact, les bobettes blanches.
Mais qu'il est vraiment excellent dans The Bear, une série que je vous invite à découvrir. Incarnerait de Boss au cinéma, donc Bruce Springsteen.
Okay, ouais.
Je pense que c'est un casting qui fit, qui va bien.
Il va être buffé, là, mais...
Ouais, bon, remarque, il va peut-être tourner down un peu.
Ouais, c'est ça.
Prendre un peu de poids,
skipper
mais...
deux semaines d'entraînement, là.
Mais ce qui est intéressant dans le projet, c'est que ce sera pas une biopic traditionnelle, alléluia,
okay.
Mais ça va se concentrer sur la réalisation de l'album Nebraska en 82, qui est son sixième album, que je connais moins. Moi, je suis vraiment plus... Born in the USA, ouais. Cette période-là, oh. Mais qui apparemment qui est un album phare de Springsteen, là, c'est comme un chef-d'œuvre.
C'est pas un artiste que
voir.
Je connais.
Moi non plus, pas tant que ça, mais donc juste cet angle-là, je pense que ça peut être intéressant.
Effectivement, c'est ce qu'on reproche à beaucoup de biopic, de biographie musicale, d'être comme de la naissance à la chute.
Là,
avec...
niveau,
ben écoute, je vais pas être oiseau de malheur, là, mais le Amy Winehouse là, qui s'en vient là, dans un mois à peu près aussi me laisse présager ce classique du début à la fin et comment les chansons arrivent à moi. Là.
Et autre projet, je pense qu'il va t'intéresser celui-là aussi, le prochain Darren Aronofsky. Qui nous avait donné The Whale, qui était son dernier film, revient pour Caught Stealing, qui mettra en vedette Austin Butler.
OK.
Qui, évidemment...
Ouais, là, il est dans tous les projets maintenant.
Ouais, lui aussi, avec son fade de Ruta de Dune, vraiment lancé. Ben, sa carrière était déjà lancée avec ça. Elvis, mais vient confirmer son
talent. Mais là, puis
là,
on va le voir
talent.
Dans les Bike Riders
Bike
aussi,
Riders au mois de juin, ouais. Alors, un thriller policier qui est une adaptation d'un roman de Charlie Houston de 2004, où Butler, son personnage, est un ancien joueur de baseball déchu. Qui gravite autour du crime organisé new-yorkais.
Crime.
Qui se passe dans les années 90.
Fait que là, ça va être. Ah, des années 90, c'est plus récent. Parce que j'allais dire justement, tu vas voir le pinstripe de l'uniforme des Yankees et le pinstripe des vieux mafieux italiens. mais ça aurait été plus comme des années 30.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, donc contemporain. Ben, contemporain, entre guillemets. Mais ouais. Alors, je trouve la prémisse qui peut être assez intéressante. Là, puis je vois bien Butler.
Ben oui,
jouer,
puis à moins qu'un film, que j'oublie un titre, mais voyons, Aronofsky n'a pas fait ce genre de film-là.
Pas
un
tant,
peu mafieux,
non.
Thriller.
Ouais,
c'était pas ça. Là, thriller psychologique, un temps avec Black Swan, mais.
Non, effectivement,
ben,
je pense que c'est une
les,
première.
Requiem for a Dream, ces affaires-là. Là, des trucs anxiogènes d'une certaine manière, mais pas enquête ou. Criminel,
mm-hmm.
C'est moins ça. Fait que de voir, mais lui, c'est un mec de New York, hein, justement. Là, c'est un fait, ben c'est bien. Il connaît comme son New York, fait qu'il fait des films à New York et tout. Il est pas dans la gang de la côte ouest, mettons.
Non, 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 vraiment pas. Donc, fait que ce genre de voir, mais il n'y a pas de date de sortie encore annoncée. Là, en fait, le tournage pas débuté non plus. Fait que j'imagine quelque part automne 2025. Là, ça serait très réaliste, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. Avant ça, ça serait surprenant, en effet.
Ouais. Je pense qu'on va peut-être le placer dans les films à Oscar.
Ouais, exactement.
Ça.
Ça
sonne ça.
C'est certain que ça sort à l'automne, comme pour être dans les ceux qu'on a en mémoire à la fin, etc. Là.
Mm-hmm.
Avais-tu d'autres
on peut juste parler rapidement pour les amateurs du Spider-Man de Miles Morales en ennemi. Ben, je vais te laisser aller. Si
Sony et toute la gang qui font ces films-là ont mis gratuitement sur la chaîne YouTube de Sony un court-métrage de 7 minutes. Qui s'appelle The Spider Within a Spider-Verse Story. Je crois pas qu'il soit disponible en français. Là, je pense que c'est juste en anglais. Il aurait fallu que j'aille fouiller sur ce qui est sur Sony, la chaîne Sony Canada ou Sony Québec. Là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, c'est comme un court-métrage pour sensibiliser à un peu la charge mentale, puis la santé mentale, l'anxiété et tout. Fait que c'est en partenariat avec le fonds Kevin Love, qui est un joueur de basketball, qui est une initiation justement à but éducatif, là, qui s'appelle hashtag de Hero Within, donc le héros en nous. D'où le jeu de mots avec The Spider Within pour ce court-métrage-là. Fait que tout le monde a des difficultés, tout le monde passe à travers quelque chose, même les super-héros comme Miles. Fait que c'est un peu un petit, tout petit truc où il fait des genres de cauchemars, puis que ça va pas bien, puis il se met à parler avec son père. Fait que, tu sais, ça se passe pas après le deuxième film. Ça se passerait comme entre le premier puis le deuxième film, là, par un soir de même où il arrête pas de combattre le crime, mais tu sais, on le voyait, là, c'était quelqu'un qui avait ces enjeux-là. Il est en retard à l'école, il est jamais assez là partout parce qu'il essaie d'être... de combattre le crime en secret au travers de tout ça et tout. Là. Fait que c'est juste comme ça. Pour dire, ben, quand ça va pas, il y a sûrement quelqu'un à qui tu peux te confier puis ben, juste discuter sans nécessairement... Des fois, ben, le court-métrage va pas jusque-là, mais tu sais, des fois, il y a pas de solution à des problèmes, mais juste de parler des problèmes...
Ça, ça peut faire du bien de te sentir écouté, oui, tout à fait.
Exact. Fait que, bref, c'est quand même très sympathique. Ouais. Puis, c'est 7 minutes. Dans le fond, ça doit être 5 minutes et demie, là, si t'enlèves les génériques et tout. Là. Fait que, mais j'étais content de revoir l'esthétique, le traitement sonore, ils l'ont remis. Il y a encore un petit segment où il écoute avec ses écouteurs du gros B-trap et tout. Là. Ça me donne hâte aussi. Ben, c'est une super belle œuvre. Puis, tu sais, ça coûte quand même cher, là, même 7 minutes. Là, ça a dû leur coûter 3 millions, là, cette affaire-là. Là. Fait que. C'est cool qu'elle a offert ça pour aider la cause, mais ça me donne aussi hâte au prochain film, mais qui est comme pas confirmé sur quand il serait et quoi que ce soit. Là.
Ouais, non, moi aussi, j'ai bien hâte, je l'attends patiemment. Mais effectivement, je trouve que c'est une très bonne idée et c'est un personnage qui s'y apprête bien aussi. Ouais. T'sais, un ado qui on peut faire tous les liens. Épaules, là, c'est ça. T'sais, fait que non, belle initiative, puis très bien fait, effectivement. Fait que montrez-le à vos ados. Assurément, ça vaut la peine. Dans les bandes annonces cette semaine, moi, j'en ai relevé deux plus importantes.
Ouais, ben, il y en a deux, trois.
Ouais, fait que, on commence par lesquelles?
Ben, moi, c'est un film français qui m'a surpris, Le Comte de Monte Cristo. Mm-hmm. Pourquoi cela m'a-t-il surpris? Parce qu'il n'y avait pas d'être annoncé ici pour le quai. Ben, je pense qu'en France, sort en avril. Pour le Québec, ça fait un bout que le distributeur parlait de le sortir à Noël prochain.
Oh, OK.
Puis finalement, il y a eu bing bang, un communiqué de presse. Non, finalement, ça sort au mois d'août. Mm-hmm. Fait qu'on y aura droit plus vite qu'on espérait ou qu'on pensait. Et ça met... il y avait quelques détails. On avait déjà peut-être discuté ici là, ou sinon juste professionnellement. Mais c'est Pierre Niney qui va jouer... c'est quoi? Ce fameux comte de Monte Cristo. J'imagine que c'est le personnage principal. Honnêtement, je connais pas l'histoire. J'ai jamais vu les autres adaptations avec Jim Caviezel puis ces affaires-là.
Un Depardieu qui en a fait marquante aussi. Mais ouais, ben en fait, c'est un homme. Ça se passe pendant les guerres napoléoniennes.
Okay.
Et lui, il débarque, je m'en rappelle plus trop dans quel coin. Puis il s'apprête à se marier et il va être enfermé, emprisonné, en fait, comme collaborateur de Napoléon, là, parce que c'était à l'époque où Napoléon divisait encore. Le peuple français et tout ça. Et puis, je pense qu'il est incarcéré comme 14 ans ou 15 ans. Et là, il va se faire une éducation. Puis quelqu'un va le mettre sur une piste pour un trésor qui va le rendre vraiment riche. Et là, il va prendre sa vengeance sur ceux qui l'ont emprisonné, justement.
OK.
Le déguisement et tout ça aussi. Là. Fait que
c'est Pierre Niney, là, une des coqueluches... Ouais. Française qui va jouer ça. Il a quand même fait un peu de film, un petit peu action, là. Pas autant qu'à PAP que ça, là, mais il en a quand même déjà fait quelques faits d'armes avec Anaïs de Moustier, Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, là, qu'on avait vu dans La Nuit du 12. Et j'y avais parlé, je pense, la semaine dernière, Pierre Francesco Favino qui est dans Dernière Nuit à Milan. Fait que d'après moi, il va quand même être un des méchants, je sais pas, à moins qu'il soit un allié, là, une espèce de conte italien, je sais pas trop. Mais c'est que ça va être écrit et réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, hein, qui eux ont aidé à la scénariser le diptyque des Trois Mousquetaires. C'était pas eux qui réalisaient, mais là, ils vont réaliser Monte Cristo. Fait qu'on est un peu dans la même veine de cap et d'épée et tout.
Ben, c'est du même auteur en plus, Alexandre Dumas.
Voilà. Fait que c'est comme la France s'attaque à ces grands romans classiques-là. Fait que. Puis là, ça, c'est un seul volet, là. Ça sera pas en deux films. Mais... Fait que, ouais, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Mm-hmm. Ça sort le 16 août, finalement, au Québec. Sûrement une sortie très large en vue.
Non, moi, j'ai très hâte aussi. Très bon comédien, puis visuellement, ça a l'air très spectaculaire, là.
Ben, tu sais, d'entrée de jeu, aujourd'hui, tu parlais des Pirates des Caraïbes, tu sais, puis ça avait un peu ce feeling-là. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y avait une bonne partie bouffon, là, surtout autour de Jack Sparrow, mais comme... C'est comme si Orlando puis Keira Knightley étaient un peu plus sérieux dans leur trame, puis t'as un genre de comic relief, mais qui est comme ton personnage principal au travers. Là. Mais c'était le fun, ce genre d'aventure-là, puis c'est aussi ce qu'on avait retrouvé, qu'on avait vraiment apprécié dans Les Trois Mousquetaires. Fait que je suis vraiment très, très content que ça sorte comme à la fin de l'été. Puis j'ai l'impression qu'il va plus se démarquer que le fameux Noël, là, que c'est peut-être un peu ce qui est arrivé d'ailleurs cette année, là, plein de films en même temps, des Aquaman, puis des sapins, puis tu sais, de tous les genres, puis c'est comme « OK, venez voir notre film », mais tu sais, oui, les gens vont beaucoup au cinéma pendant les fêtes, mais la plupart, ils vont quand même pas 6 fois, là.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, la fois par année, qui vont au cinéma, c'est à Noël, fait que si tout le monde a son plus gros film, ou un gros, ben, tu te nuis quand même, là, tu sais.
Ouais. Surtout qu'il n'y a pas de, traditionnellement, il y a souvent des films québécois dans cette période-là aussi, mais là, ça ne semble pas être le cas.
À Noël, tu parles ou en
nous? Non, en nous.
Ouais, t'as Ricardo, 95, qui sort genre le 31 juillet ou une affaire
d'amour. C'est pas la même crowd, par exemple. Là, fait que,
non, non, c'est sûr.
Je pense qu'il se positionne bien. Je pense que c'est intéressant.
Ben, tu peux jamais avoir 100% de champ libre. Mais voilà.
Dans l'autre registre, on avait parlé, je pense que c'était justement la semaine dernière ou l'autre d'avant, Kinds of Kindness, le nouveau Yorgos Lanthimos.
Oui.
On a pu voir un petit teaser, petit aperçu très court, mais très bien monté avec le classique Sweet Dreams de Eurythmics, plus en trame de fond avec Emma Stone. Ça a l'air encore là, très déjanté, vraiment une mise en scène, des cadrages très soignés.
Ouais, puis on comprend que c'est plus contemporain, là, qu'on a c'est plus ancré dans le monde réel et tout. Là, ça fait un bout qu'il n'a pas fait ça. Là.
Tout à fait. Fait que on comprend pas grand-chose de l'histoire pour l'instant.
Non, mais je pense que
c'est une vague magouille un peu, des trucs de même. Là, mais...
Ils vont sûrement nous sortir une bande-annonce plus claire quelques semaines avant, là, peut-être au mois de mai. Mais moi... T'sais, c'est comme l'appel pour les fans. Là. Hey, vous aimez ça, Emma Stone, puis Yorgos, puis tout. Là, t'sais. Si t'as aimé Parting, viens voir ce film-là.
Ouais,
là. Pas, ça n'a rien, probablement rien rapport, mais c'est le même génie créatif. Fait, mm-hmm. Ben oui, là, j'ai pas besoin de voir une bande-annonce. Je découvrirai l'histoire le 21 juin à sa sortie. Puis, as-tu vu l'autre grosse bande-annonce? Parce que tu m'as dit deux, fait que là, t'as-tu...
Ben non, je l'ai skippé, mais si t'allais là...
Ah ben c'est Bad Boys Ride or Die, que je trouve qui est excessivement un titre à la...
Die Hard, les derniers Die Hard. Là,
ben non, ou même Les Rapides et Dangereux, oui, là, je trouve. en français, Mauvais Garçon à la vie, à la mort. Mais c'est juste parce que cette franchise me fascine, parce qu'il y avait eu deux films au début des années... début 2000, fin 90,
ouais,
à peu près, que c'est Michael Bay. Là, c'est dans ses premiers gros succès comme ça, avec Will Smith puis Martin
Lawrence.
Écoute,
je pense même que c'était le premier 95, parce qu'il était avant Independence Day de mémoire. Okay. Même. Je pense que c'était comme le premier film d'action de Will Smith avec Bruckheimer.
Puis le deuxième a dû sortir...
quelques années après.
C'était avant Independence Day, excusez-moi, là, Carmageddon, je pensais Michael Bay, bref. Fait que ça a dû sortir 99-2000, quelque chose comme ça. Puis là, il y a eu un gros vide. Puis là, en janvier 2020, il sort une espèce de... C'est ça, c'était pas un reboot, mais c'est comme les suites inespérées, 20 ans plus tard, les mêmes personnages qui reviennent. J'ai déjà oublié comment il s'appelait. For Life, Bad Boys For Life. Puis ça a été un des plus gros succès. Et surtout, ben, tout après, il y a eu la pandémie. Ouais, fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres choses pour le battre. Mais il avait quand même fait 200 millions US en sortant genre le 15 janvier. Là, fait qu'en comme 6 semaines avant que la pandémie frappe, commence à frapper et tout.
Et fait avant que comme... Will Smith frappe aussi.
Oui, mais fait que c'est comme phénoménal là, pour un film d'action de même que tu dis, hey, c'est une affaire de... Tu sais, la nostalgie, c'est... payant, mais pas toujours. Là.
Mm-hmm.
C'est toujours tentant, mais c'est pas toujours payant. Puis là, ça l'a été.
Ouais.
Fait qu'évidemment, ben là, ça a conduit à cette suite-là qui est réalisée, je sais pas si c'est écrite par eux, mais en tout cas, réalisée par les mêmes gars qui ont fait le volet d'avant. Fait que... Mais c'est une série que j'ai comme jamais écoutée.
Ben moi non plus, je dois confesser.
C'est ça, c'est pour ça que tu n'as pas parlé.
Non, c'est pour ça que je peux aller avoir bonne annonce.
Mais
que...
c'est parce que moi, c'est plus... Il y a un sujet fascinant là-dessus, tu sais, c'est que... C'est un truc qui a déjà marché, ça a eu certains hits. T'sais, Will Smith est vraiment une vedette, là, quand même plus que Martin Lawrence au niveau cinéma. Là. Puis là, il n'y a rien. Puis fait que là, 20 ans plus tard, sort ça en janvier. Tu ne sors pas des coups de circuit en janvier d'habitude. Tu peux en faire, mais c'est pas tes meilleurs frappeurs, là, si on met ça en termes de baseball. Là.
Mm-hmm.
Puis là, eux, c'est comme hey, phénoménal, tout le monde veut voir ça. Fait que tout de suite, hey, on en fait. Fait qu'ils ont commencé à tourner l'autre, je sais pas, en 2022, une affaire de même, là, un petit peu arrêté par pandémie. Puis on reprit, puis on finit par. Conclure ce tournage-là. Puis là, ils sortent comme « Hey, en juin ». Fait que là, c'est devenu un gros film, tu sais. Fait que est-ce qu'il y aurait... Ce qu'on va savoir plus tard, c'est est-ce qu'il aurait dû le garder dans une période un peu asynchrone ou continuer, ou c'était un bon move, tu sais. Ça me fait penser à l'effet Deadpool, que justement, il va y avoir un troisième volet cet été. Le premier avait surpris tout le monde parce que c'était comme « Hey, rated R, ça va pas trop marcher. » Très peu de gens, c'est genre 18 ans et plus aux États, ça, je pense. mais il est sorti à Saint-Valentin, il n'y a rien d'autre. Finalement, hein, les couples vont voir ce film-là parce que c'est drôle, parce que blablabla. Donc là, le deuxième volet, plein milieu de l'été, en juillet, mais là, il avait fait moins fort. Mais là, tu vois, depuis que c'est... Là, maintenant, c'est Disney qui a les reines, mais eux, ils vont quand même pour l'été, mais ils sont encore plus puissants.
Avec l'été atypique qui se présente, il y a de moins de gros films à cause de la grève et tout ça. Je pense qu'honnêtement, Bad Boys se positionne bien parce que de mémoire, t'as le cascadeur de Fall Guy au mois de mai.
Ouais, mais c'est comme 5 semaines avant, fait que c'est plus un enjeu.
Puis après, t'as Deadpool qui va être plus fin juillet.
Oui, ouais, il est 26 juillet, il est vraiment fort.
Fait qu'il y a comme rien entre les deux de ce genre-là de mémoire. Là.
C'est parce que nous, on écoute beaucoup de films, mais je le sais pas pour les publics cibles, mais tu sais, 24 mai, donc 2 semaines avant, t'as Furiosa.
Mais
je suis pas sûr que c'est tout à fait peut-être le même genre. Là.
Ouais.
Puis,
on est plus dans la comédie d'action classique, là. Fait que...
Ouais.
Non, moi, je pense qu'il... Ouais, l'espèce
de duo... Duo qui s'engueule tout le temps, mais que finalement, c'est sont amis. Là,
bien sûr.
Puis là, ça fait comme 30 ans qu'ils font ça, ben, leur personnage.
Les buddy cop movies, c'est la formule.
Voilà. Mais comme L'arme fatale, tu sais.
Ben
mais
oui.
Mais l'effet marche beaucoup sur le premier, parce que c'est la rencontre.
Mm-hmm.
Mais après ça, c'est une vraie amitié, finalement. Ouais. Là. Mais dans ce cas-là, je suis plus sûr qu'elle joue comme eux qui devraient pas être ensemble. Là. Ils ont l'air d'être. De se tenir tout le temps ensemble, les personnages, évidemment, même quand ils travaillent pas, là, mettons. Ils sont vraiment amis plus, je pense. Mm-hmm. Je pense que j'ai écouté le 1 puis le 2 à un moment donné pendant la pandémie. Genre, hey, c'est un classique, puis pour vrai, je pense que je m'endormais toujours dessus, puis j'en ai aucun souvenir. Puis, mais écoute, j'aime ça quand même des sagas, puis des séries. Puis là, maintenant qu'on a le podcast, puis tout, ben, on va sûrement couvrir quand même la sortie. Fait que.
T'auras pas le choix de te relancer.
Ben, je pense que je vais me taper les trois, mais.
Je pense
que
moi aussi, je vais le faire.
Je ferai pas ça en fin de semaine. Là. Je vais attendre en mai, là, peut-être. Là, deux, trois semaines avant. Là.
Est-ce qu'on va faire un épisode spécial? Bad Boys ou un spécial Will Smith?
Ah, je sais pas si un spécialiste qu'on connaît, là, qui est un grand défendeur de cette franchise-là. Ou le combat des franchises de Buddy Cop. Ça pourrait être ça.
Ça, ça pourrait être. Ouais, ouais.
Toi, ça serait L'arme fatale, je pense.
Ouais, pas mal certain. Là, ouais.
Moi, je suis la génération Rush Hour aussi.
Ouais, c'est vrai que c'était.
Je sais pas si j'irais au bat pour eux, mais.
Ouais, je sais pas si ça a bien vieilli. Dans les deux cas, ben Lethal Weapon, j'avais écouté les deux premiers 4-5 ans. Le premier vieillit toujours bien parce qu'on est plus dans. On est moins dans la comédie, okay. Le premier. Fait que je trouve qu'il vieillit quand même très bien. Hein. Puis on a tendance à oublier, mais ça se passe dans le temps de Noël. Fait qu'en théorie, ça pourrait être un film de Noël. On cite souvent
Die Hard. Ah ouais, ok, mais sur quoi sont-ils en LA, genre?
Ouais, c'est ça.
Okay, fait que pas de
mais Die Hard non plus, il n'avait pas de neige.
Mais Buddy Cop, Bon Cop, Bad Cop, c'est notre. Ouais. Notre succès du Québec.
Donc, allons-y avec les sorties de la semaine. Fin de semaine pascal. Pas de film religieux, pourtant.
Ben, écoute, c'est sûr qu'il y en a. C'est juste que c'est pas,
ouais,
c'est pas des grosses sorties larges, mais je suis convaincu
aux
que...
Aux États-Unis, d'avoir un
ouais, petit, il peut pas avoir une année où, à part qu'on célèbre pas quelque chose de religieux, là, au box-office, là, dans les dernières semaines, c'était The Chosen, là, qui est la grosse série. Puis là, c'est tout le temps au mois de mars, comme avant qu'ils sortent les... février-mars, les épisodes, mais en bloc, là, à coup de 3 épisodes à chaque semaine. Puis ça fait quand même genre 8 millions au box-office pour aller voir
sur
Jésus. Mais... Non, c'est malheureusement, depuis la Révolution tranquille, on n'est plus tant intéressé au Québec.
Non,
c'est clair qu'il y a des gens que ça les intéresserait, mais c'est pas assez pour que le marché s'emballe.
J'ai connu la belle époque du Jésus de Nazareth qui était diffusé à la télé en une journée, 6 heures de temps.
Ouais, où il n'y a pas les 10 commandements souvent.
Ouais, 10 commandements, c'est ouais, Ben-Hur et tout ça. Là, mais ouais.
Mais Ben-Hur, c'est religieux à fond, le film?
Ouais, ou...
Je pensais que c'était un genre de gladiateur, j'ai jamais
non,
vu.
Non, il croise quand même Jésus là, dans le film. Là. C'est pas
un caméo de Jésus.
Présent, ben, ça fait longtemps que je l'ai vu.
C'est-tu Richard Pryor qui jouait?
mais il y a quand même un lien avec la religion un peu.
OK. Ben, d'abord, on parle de quoi si on n'a pas de film religieux?
Allons-y avec le film, je pense, pour nous, peut-être plus attendu pour une frange, tout dépendant où vous vous situez. Mais allons-y avec Hôtel Silence de Léopold, quand même.
Parfait. Que je savais vraiment pas sur lequel tirer avec autant de réserve. T'avais comme le pied sur l'accélérateur puis sur le frein en
ouais,
même
c'est
temps.
Ça.
qui met en vedette Sébastien Ricard, mais aussi pour la première fois à l'écran, Lorena Hanshin, qui est une actrice suisse, mais on retrouve Irène Jacob, Louise Turcot, Paul Amarani, des faces connues. On suit le personnage de Jean, joué par Sébastien Ricard, qui est vraiment hanté par une espèce de mal de vivre, de spleen. Puis qui commence sérieusement à songer à mettre fin à ses jours. On comprend qu'il ne se remet pas trop de sa séparation avec sa femme. Même s'il y a des bons liens avec sa fille, il est quand même un peu distant. Là, mané, elle a genre 20 ans, fait qu'il n'est plus à la maison, etc. Fait qu'il se sent pas mal seul. Fait que un peu sur un élan rapide, il s'en va dans un pays d'Europe qui vient de sortir de guerre, donc tout est dévasté. Un peu dans le but de mettre fin à ses jours, en se disant comme, ben je pense que ça va être moins un poids si je fais ça ailleurs en cachette un peu que dans mon salon quand ma fille peut arriver, tu sais. Fait que, mais il va rencontrer quand même des gens là-bas, des gens qui vont démontrer une espèce de résilience naturelle, puis une force de vivre. Puis là, au contact de ces gens-là, malgré lui, ben peut-être qu'il va se laisser prendre à retrouver goût à la vie. C'est une adaptation du roman Ur de l'Islandaise Audur Ava Olafsdottir. Je pense que c'est la première fois que... Sais-tu qu'elle laisse adapter un de ses romans, ou même c'est ce roman-là que plein de monde voulait, mais qu'elle a juste accepté?
Un de ses romans, elle n'a jamais accepté tout court, ouais. Elle ne voulait pas. Et j'ai vu une entrevue, elle s'est laissée convaincre parce que, apparemment, elle aime le cinéma québécois.
OK.
Bon, probablement que ça se limite à du Xavier Dolan, genre qu'elle a vu.
Peut-être du Denis Arcand.
C'est ça, ou peut-être. Donc, bref. Et lorsque Léopold l'avait contacté, t'es allé regarder quelques-unes de ses films, puis finalement, elle lui a dit d'accord, je te laisse. Je te donne ma bénédiction, tu peux en faire ce que tu veux.
Ah, c'est ça.
Mais c'est quand même un gros coup pour Léopold, parce que le roman, écoute, a été traduit dans plusieurs langues, vendu plusieurs millions d'exemplaires, avait gagné comme le grand prix littéraire islandais et tout ça. Là, fait que, quand même intéressant qu'elle s'attaque à un roman de la sorte. Elle transforme, elle contextualise évidemment dans un ton québécois, là, évidemment. Là.
On a fait un épisode spécial sur le film qui, en fait, je l'ai mis en ligne. Oui, c'est déjà en ligne. Puis dedans, ben, on lui a posé la question. Il y avait Léa Paul, Sébastien, puis Lorena aussi qui était sur place. Puis ça m'a rappelé aussi parce qu'elle a écrit une lettre très personnelle à l'autrice. Puis c'était pas aussi quand on avait parlé, pour Chien Blanc, là, Anaïs Barbeau-Lavalette, c'était-tu elle aussi qui avait les droits là, du fils de Romain Gary
et tout.
C'était comme vraiment compliqué. Puis elle a fini par juste aller comme cogner chez eux. Puis des histoires de même. Je veux vraiment mettre ça ma job, c'est de mettre des histoires à l'écran, puis je la vois, je le sais comment le faire, faut que je le fasse, fait que c'est quand même captivant ces affaires-là de batailler, tu sais.
Vraiment.
Parce que, en tout cas, vous verrez cette semaine dans d'autres films qu'on parle que c'est plus l'inverse. Voici un scénario que je pense qu'il est fini, vas-y, fais un film. Mais l'autre, c'est plus, non, j'ai une bonne histoire, t'as une bonne histoire, je veux l'adapter. Puis, écoute, mentirais pas, je pense que c'est pour un public un petit peu plus âgé que moi, mettons. Mm-hmm. Peut-être toi t'es un peu plus vieux.
Dans ce public cible-là.
C'est ça. Des vieux de 40 ans et plus. Là. Je déconne, là, mais tu sais, il y a des choses vraiment belles. La DA est exceptionnelle là-dedans. Ils l'ont dit un peu dans l'entrevue, mais sans trop se mouiller. Là, ils voulaient, parce que on le sait pas son où dans le film, puis elle dit que c'est important qu'on le sache pas pour pas comme identifier ça, puis stigmatiser, à dire « Ah, c'est bien, ils sont dans, je sais pas trop, mais quel pays qui vient de sortir de guerre. » C'est plus comme « Ben, dans un endroit un peu fictif, mais que c'est sûr que ça existe. » Parce que là, tout le monde parle français dans le film.
Ouais. Puis ça demeure quand même intemporel avec cette approche-là aussi. Là. Si tu l'attaches à une guerre qui a eu lieu, ben le film peut perdre un peu de sa puissance. Là. Mais tu sais, on devine, les gens parlent français, mais t'as un côté, je trouve, un peu Europe de l'Est. Mais en même temps, elle m'a étonné où ils avaient tourné ça dans le coin de l'Espagne et tout
ça.
Oui,
elle dit la frontière France-Espagne, à peu près. Fait que c'est des vieilles ruines, mais d'autres qui ont reconstruit, là, un peu. Ils ont rebrisé des choses. Puis il y a plusieurs comédiens québécois qui... Bien, c'est sûr que j'ai nommé, mais Louis Turcot, Paul Amarani, eux sont au Québec, là, ils sont pas dans... une fois qu'ils sont en voyage. Mais j'oublie le nom du comédien, là, mais lui qui fait...
Sébastien Ricard.
Non, pas Sébastien Ricard, mais genre, lui qui fait l'aubergiste. Là. Mais c'est, on le retrouvait dans Starbucks. Là, il faisait comme le père du personnage de Patrick Huard.
Ah oui, tout, le vieux monsieur, oui. Ouais. Ouais, j'oublie son nom.
David Wozniak. Ouais. Monsieur Wozniak. Puis, tu sais, elle dit oui, il y a Lorena. Il y a dans le fond, il y a des Suisses, il y a des Français, il y a des Québécois, il y a des. Lui, je pense que c'est ça, c'est un
justement des. Ou Yougoslave, je pense.
Ouais, c'est ça, mais qui est rendu au Québec. Ouais. Fait qu'elle dit, tu sais, juste dans mon film, il y a plein d'accents différents. Là. C'est ça. Sébastien parle quand même. Un peu léché, là. Je pense qu'on. Un peu théâtre, là. Je pense qu'on voulait que le film vive bien à l'international dans toute la francophonie, là. Fait que c'est pas le gars du lac, là, qui est là. Mais aussi, c'est parce que ce qui est intéressant, là, je l'ai peut-être sauté, c'est que lui, il est pas ébéniste, mais il est genre homme à tout faire ou disons très manuel. Mm-hmm. Fait qu'il peut pas s'empêcher de voyager avec ses outils, surtout s'il avait le plan de. Dépendamment de la manière qu'il pensait mettre fin à ses jours. Fait qu'il a traîné ses outils pour pas avoir à en acheter, surtout dans un pays en guerre. Les quincailleries sont plus tough à trouver des fois. Fait que c'est comme ça, il va être logé à l'hôtel Silence. L'hôtel s'appelle l'hôtel
oui,
Silence.
Ouais, c'est ça,
exactement. Puis, fait qu'il va se mettre à faire des petites réparations pour eux. Ah là, tu peux-tu juste l'eau chaude ou tu sais, au début, il est fait pour lui-même, il voit qu'il sait faire ça. Fait que tu sais, c'est un peu de même qu'il va se mettre à aider. Fait que c'est vraiment tout le volet de la reconstruction de soi, donc de se réparer. Mais de se réparer, tu sais, il n'arrivait pas à retrouver goût à la vie en étant seul chez eux, mais là, c'est le contact des autres aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, l'humain est fait pour être en gang. Et puis ça, on va le voir dans Godzilla versus Kong tantôt aussi. Fait que les films ont beaucoup plus de liens qu'on pense quand on les décortique. Avais-tu autre chose à ajouter sur Hôtel Silence?
Je veux juste dire que j'ai bien apprécié Lorena Hutchins, justement, dans un premier rôle qui n'est pas sa langue maternelle non plus.
C'est une Suisse allemande.
Oui, c'est ça. Donc, je trouve très efficace, très crédible, la chimie avec Sébastien aussi. C'est un film qui est quand même un peu intellectuel, très intérieur, comme Léopold le fait souvent aussi. Là. Fait que si vous aimez sa filmographie, vous ne serez pas déçus. Mais je suis un peu d'accord que ça s'adresse peut-être à un public un peu plus âgé, là. Par le sujet, la thématique et le traitement, mais ceci dit, à ce niveau-là, je pense que vous allez très bien apprécier. Là, puis, visuellement, j'ai été vraiment frappé par le film. C'est vraiment bien construit. Et l'hôtel lui-même est un personnage dans le film, puis je trouve qu'ils l'ont bien choisi avec vue sur la mer et tout ça.
Oui, puis il y a une architecture unique, ouais, là, aussi, comme là. Sur un genre d'artère de rue. Fait que, en France, souvent, là, tu sais, quand tu as les quartiers en étoile, ou le continental dans John Wick.
Ouais, le Flatiron Mill.
Mais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est comme en montant, une rue qui monte, une rue qui descend, et sur le coin. Fait que ouais, c'est très unique, c'est cool. Il y a une grosse place à. On en discute aussi dans l'épisode, mais à l'art dans le récit, parce que c'est une des choses qui revient. Tu sais, la musique chantée, c'est comme une des premières affaires que tu peux faire. Tu sais, serait-ce que si on se rapporte à l'époque, triste époque de l'esclavagisme, puis tout, la chanson blues qui a commencé, les racines de même, de dire. Tu peux nous détruire, mais tu peux pas nous empêcher de chanter. Fait qu'il y a ça. Puis c'est super cool. Lorena a amené, joue et chante une pièce au piano. Puis on a appris que c'est une de ses chansons elle-même, originale, parce qu'elle fait de la musique également. Puis ça, c'est venu quasiment sur le plateau. En fait, après avoir choisi Lorena comme actrice, Léa a comme découvert qu'elle avait ce talent-là. Puis qu'elle a dit « Ah ben non, on va l'intégrer à ton personnage. » Puis tout, t'sais.
Il manquait juste un duo, loco-locasse, c'est repris pour une toune ensemble.
Je pense que c'est quand même pas mal derrière Sébastien, mais je suis pas sûr qu'il miroite de faire un comeback.
Mais
peut-être
sinon,
si les libéraux reviennent au pouvoir, là, ils seraient les premiers à sortir.
Ça va être comme un super-héros qui ressort de la retraite. Là,
exactement.
Mais pour la petite histoire, le titre veut dire cicatrice en français. Parce que c'est un personnage, je pense qu'il y a plein de.
Ok, pas. Je pensais à l'Hôtel Silence.
Non,
comment
non,
ça, Hôtel Silence, juste qu'adresse le titre du livre. Ok, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ben oui, effectivement.
Et ça prend tout son sens. Ouais, ouais. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que ça voulait dire.
Ah, alors, ça a beaucoup moins de syllabes.
Restons dans la francophonie avec le film Iris et les hommes. Je pense qu'il s'adresse un peu pour le même public tranche d'âge.
Peut-être. J'ai trouvé de quoi de sympathique là-dedans, comédie sentimentale. Mais ce qui est très intéressant dans le film, c'est que c'est écrit et réalisé par Caroline Vignal et ça met en vedette Laure Calamy. Et ça, c'était le duo de choc qu'elle nous avait donné Antoinette dans les Cévennes en 2021 à peu près. Ouais. Quand les cinémas avaient comme réouvert, je me souviens que ça avait été un bon hit, ce film-là. Laure Calamy, qui est dans comme un film sur deux à cette heure. Là. C'est comme elle ou Virginie Efira ou Jean-Sandrine Kiberlin. Là. C'est pas mal les trois faces qu'on voit tout le temps. Puis c'est ici, on va suivre son... Je sais même pas le nom de son personnage, monsieur. Ben, Iris. Hein, oui, c'est ça. Chaque fois qu'ils sont dans le titre, j'ai toujours de la misère. Qui vit... elle a son mari. Ils ont deux enfants, deux filles un peu plus ados, 10 et 15 ans à peu près. Puis elle est comme dans ce qu'il appelle un désert sexuel. Là. Fait que son mari est débordé, il vient d'avoir un nouveau contrat au travail. Fait que, tu sais, il est présent pour les filles et tout, mais leur vie conjugale est plus là. Là. C'est comme des colocs qui ben rodés, mais c'est tout. Fait que quelqu'un va y suggérer d'avoir une adultère. C'est-à-dire, il y a plein d'applis, d'applications cellulaires à cette heure. Tu peux facilement te laisser aller là-dedans, puis sans laisser ton mari, puis ça va comme... te donner là ce qui te manque, puis à la maison, ben, tu vas avoir ton mari et tout. Sauf que ce qu'elle va espérer, c'est que est-ce que cette série d'adultères-là va comme l'aider à se redécouvrir, puis peut-être, d'une certaine façon, venir nourrir son couple, t'sais, régler ses problèmes. Parce qu'ultimement, t'as beau aller voir ailleurs, s'il y a des faiblesses, elles vont pas se régler là. Ça va peut-être juste mettre le doigt dans l'engrenage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup cette facette-là souvent masculine. T'sais.
Oui.
Ah là, je suis très... ma blonde, c'est ma blonde, c'est la mère de mes enfants, c'est fantastique, mais j'ai besoin du sexe foufou. Fait que là, je suis sur Tinder en secret en plus, puis etc. Fait que c'est le fun de le voir cependant là. Mm-hmm. Quand tu disais que ça s'adresse peut-être plus vieux, ben c'est parce qu'on comprend que c'est un couple de 45 ans peut-être.
Début cinquantaine, moi je pense.
Ben lui, il a l'air un peu plus vieux. Je sais pas si Laure a pogné 50 ans, mais en tout cas, mais qu'on a dû avoir des ans. Si on a des enfants de 10 puis 15 ans, elle peut pas avoir 52. Ouais. Oh, ça fait. Fait que moi, je pense qu'il y a plus comme 45 maintenant.
Mon Dieu, que je suis rendu vieux.
Mais. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est quelque chose d'assez léger, mais ce qui est le fun, c'est que je trouve que la sexualité est comme pas cachée, mais évidemment, elle est au cœur du récit, mais on en montre beaucoup de quelqu'un qu'on comprend que son personnage a été longtemps un peu prude, chaste. Puis là, elle s'émancipe plus tard dans sa sexualité. Mais elle va tomber aussi des fois avec des dates qui sont un peu trop intenses pour elle, là, finalement. Là, t'sais, rien qui tourne au drame, mais d'être comme « OK, je veux bien explorer la sexualité, mais il y a des affaires qui ne m'intéressent pas pour autant. » C'est pas Fifty Shades of Grey qu'on va dans tout. Puis, bref, j'ai jamais vu les Fifty Shades of Grey, hein, cela dit.
Tu manques rien, je te confirme.
Ah, t'es vu, toi?
Ouais.
Ouais, je pense que c'est des trilogies un peu risibles, finalement.
Oui.
Ben, c'est une parenthèse, c'est comme du faux BDSM, là, j'ai cru comprendre. Là, c'est ça. Les fans de sadomasochisme et tout sont comme, ben non, c'est pas comme ça que ça marche, puis c'est vraiment ça. Fait que c'est comme une idéalisation de ça.
Oh oui, qui s'adressait beaucoup au public qu'on a nommé Soccer Mom, donc les mères.
Oui, OK,
ouais,
c'est ça.
Là, qui,
ben, est-ce que nous pourrait aider...
Pris dans le quotidien la famille, ouais, mais... bref, Laure, elle a 49 ans, finalement.
OK.
Mais oui, non, c'est ça. Effectivement, l'idée est intéressante de renverser un peu cette situation-là. Elle est toujours très bonne, comme dans tout ce qu'elle fait,
d'ailleurs. Oui, vraiment, comme charmante et pétillante.
Oui,
tout
oui,
le temps,
c'est ça. Elle a vraiment une belle personnalité.
Parce que son personnage est comme assez naïf, puis tu sais, c'est une dentiste, mais un peu niaiseuse dans certains skills sociaux, mais t'embarques avec elle quand même, là, tu sais. Puis ça dure genre une heure et demie. Ouais. C'est quand même très léger. Là, fait
oui,
c'est ça. Comédie sentimentale. Je sais pas, il y a comme un essai de petite morale à la fin de tout ça, mais allez-y pas pour la grande réflexion. Là. Allez-y pour le côté bon enfant, je pense à tout ça. Là.
Tout à fait. Restons dans le bon enfant avec Chien et Chat. On peut en parler.
Tu dis toi, tu gardes Godzilla pour la fin?
Ben,
c'est
oui,
quoi?
Garde, Ben, le rime Casey, dont il s'agit d'un troisième film.
Eh hey, ben écoute, c'est toi qui l'as vu, mon ami, fait que je peux te lire un synopsis rapide. Corrige-moi si c'est pas ça. La propriétaire d'une chatte célèbre sur Instagram et un voleur de bijoux dont le chien a avalé un rubis font équipe quand leurs animaux respectifs s'échappent de leur cage à l'aéroport.
Donc
leurs animaux respectifs en CGI.
Ouais, c'est ça. C'était voulu. Rime Carissi avait ce désir-là depuis très longtemps de faire un film hybride de humains et animaux en animation comme il se faisait à une certaine époque, beaucoup aux États-Unis. Là.
Mais tu sais, genre Tom et Jerry, mais c'est pas de l'animation tout à fait comme... Roger Rabbit, là.
Non, c'est de l'animation style Garfield, puis c'est quoi, là, il y en a eu plein, là. Ben, je pense qu'il y en a même eu, c'est des chiens et des chats aussi.
Ben, il y en a beaucoup en TV Movie et ouais, tout. Que parce bref. Que, mettons, Toby, là, les premiers, là, ça, c'était des vrais
mais
chiens.
Oui, c'est,
là,
ça. C'est ça. Ou Beethoven, ou des trucs de même.
Bon, il y a un primate.
Ouais. Alors,
ils sont tous morts aujourd'hui, ces animaux-là, c'est certain.
Et donc, c'est le premier film français à utiliser cette technologie-là, ou en tout cas faire ce film de ce créneau-là. Je dois l'avouer, honnêtement, c'est pas une grande force au niveau de l'animation. C'est malheureusement pas très bien réussi, mais c'est une comédie très, très légère avec Philippe Lachaud et Franck Dubosc.
Ouais, quand même deux grands noms de la comédie. De
puis Philippe Lachaud...
Rouler sur des billes et tomber sur le derrière.
Ouais, c'est ça, dans le slapstick. Mais c'est comme des rôles contre-emploi où Philippe Lachaud est un peu le méchant dans le film. Okay. Et puis Franck Dubosc est un peu le gentleman cambrioleur, là, une espèce d'Arsène Lupin et tout ça. La particularité du film, c'est que ça se déroule quand même en bonne partie à Montréal.
Ouais, c'est une coproduction.
Fait
ouais,
que, ben, je sais même pas, c'est une coprod.
Ah oui, j'avais
ouais,
lu,
regardé
c'est
ça.
Coprod, ouais.
Et fait que ça, c'est quand même un peu rigolo. C'est toujours drôle de voir le regard des Français sur nous, ouais. Avec les préjugés et les clichés du genre. On n'y échappe pas, honnêtement, dans ce film-là. Et le tout est parti de Diva, en fait, qui était la chatte de Rim Kérissi.
Okay.
Et elle a vraiment créé un profil Instagram. Là, c'était vraiment le chat était comme ouais. Une vedette Instagrammable puis qui avait vraiment beaucoup de followers et tout ça. Donc, c'est ce qui lui a donné un peu l'idée de prendre sa chatte comme... ben, en tout cas, pas dans le film. Parce que
ouais, c'est ça.
C'est de l'animation,
ça.
Mais d'utiliser son look, son visuel. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que les deux, c'est un
Maine
Coon.
Mais il y en a plein. T'es-tu sur Instagram? Je sais même pas.
Vraiment pas.
Ah, qu'est-ce que c'est? Mais ouais, j'en suis. Tika de Iggy, là, le Italian Greyhound de Montréal, ouais. Là, qui s'est ramassé... c'est qui? C'était-tu à l'émission de... L'émission du matin, pas Reese Witherspoon, mais j'ai mélangé une autre blonde.
Drew Barrymore.
Oui, exactement. Ouais, okay. C'est ça. Fait que c'est comme un petit ouais, ouais. Chien. C'est genre un couple de deux homosexuels qui ont ce petit chien-là. Okay. Qui est devenu viral pendant la pandémie là, en faisant des stories. Pis tout. Très charmant.
La première vedette, c'était le Grumpy Cat, je pense.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est
ouais.
Ça qui est décédé aujourd'hui. Mais moi, je me rappelle de ça parce qu'il y avait beaucoup de produits.
Ouais, là, c'était ça avait quitté. Là,
c'est ça. Là,
mais
c'est...
sur Instagram, il y en a beaucoup d'animaux. Ouais. Qui ont beaucoup de following, puis même des vedettes d'ici. Là. Il n'y a pas Matt Duff, il y a sa... C'est pas une perruche, c'est une colombe. Sa colombe, elle a sa chaîne Instagram aussi. Et tout.
Fait que bref, si vous cherchez une comédie familiale pour la fin de semaine, Chien et chat tombe dans cette catégorie-là. Puis enfin, d'où est venue l'idée de tourner à Montréal, c'est pour les petits potins, si vous voulez une mise à jour, c'est Rim Kérissi et l'ex de Stéphane Rousseau. Ils ont sorti ensemble 4 ans. Donc elle a passé beaucoup de temps dans la belle province et elle est en amour avec notre coin de pays.
Ouais, c'est ça. Même si ça n'a pas l'air de quelqu'un qui a vécu 4 ans ici dans son traitement là,
ouais, c'est ça.
Du Québec. Là. Je ouais. Pense qu'il est allé pour l'exportation. Fait qu'on,
je pense que oui.
On n'a pas essayé de débunker les mythes sur ouais. Les chapeaux de poêle puis les religieuses. Là.
Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire un entretien avec elle qui sera sur le site Mon Ciné, j'imagine, dans les prochains jours. Donc, à surveiller éventuellement. Allons donc aussi un autre jumelage d'animaux, une alliance improbable yes. Avec Godzilla et Kong de New Empire d'Adam Wingard.
Ouais, je sais pas si on des je sais pas s'il y a une page officielle Instagram pour ouais, Godzilla pour Kong. C'est sûr qu'il y en a une pour l'espèce de Monsterverse puis tout, mais ouais. Genre comme si c'était un personnage réel puis
ça serait très drôle parce qu'il pourrait prendre des photos de Godzilla en train de détruire tout sur la planète là, tous les
ouais, c'est ça.
Les beaux lieux, les pyramides et les compagnies, là, le
ben,
Colisée
écoute,
de Rome.
Dans le film, on verra qu'il sac une bonne volée aux sept merveilles du monde et
c'est ça
le truc comme ça là, il en restera plus beaucoup. Écoute, ça, c'est le... essayer de recap rapidement. Là. Ouais. C'est le Monsterverse. Donc, c'est Godzilla, King Kong, puis tous les autres guys là-dedans. C'est-tu Lionsgate qui fait ça? Je sais plus. Non. Non, c'est Legendary Pictures, ouais. Je pense. Legendary, puis Warner Bros. Ça nous mettent ça sur écran. Ils avaient recommencé, eux, à partir de Godzilla de 2014 de Gareth Edwards, justement. Mm-hmm. Qui, après, il y a eu Kong Skull Island, qui lui se passait dans les années 70. Après ça, Godzilla King of the Monsters. Et là, il y a 2 ans, à peu près, Godzilla versus Kong. Mm-hmm. Alors là, il se battait là, au Japon. Et ça avait été réalisé par Adam Wingard. Fait que là, on lui redonne les rênes de la franchise ici pour Godzilla X Kong. X qui veut dire... c'est une collab. sur Internet. D'accord. Fait qu'en français, ils l'appellent Godzilla et Kong, mm-hmm. le nouvel empire. Fait qu'un peu comme la semaine passée, on est dans la thématique des empires avec SOS Fantôme. Et on est quand même un peu dans la thématique de la glace, parce qu'il va y avoir une espèce de méchant kaiju à un moment donné qui va glacer tout ça. Kaiju, ou le terme japonais des grands monstres géants. Mais je peux me tromper, mais de ce que je crois comprendre, c'est que Godzilla, Mothra, celui à trois têtes, toutes ces affaires-là, c'est créé par... c'est une compagnie japonaise qui a les droits maintenant. Oui. Mais Kong, c'est une invention américaine.
Oui, ça provient d'un roman du début du siècle, et puis je parle le premier film dans les années 30. Là,
exact. Fait que pour ça qu'on a eu des Godzilla Minus One, puis que Shin mm-hmm. Godzilla il y a quelques années, puis tout le Japon l'utilise encore, mais Kong est très aux Américains, finalement.
Ouais, ils ont comme licencié le personnage. Ils lui ont permis de l'utiliser.
Ouais. Mais je pense que dans les années 30, 60, 40, il y avait déjà eu des Godzilla contre Kong qui a été fait là, il y a plusieurs décennies de ça. Mais là, écoute, je sais pas d'où venait la production à base. Fait que ici, ben là, il y a de l'argent. L'argent est à l'écran. Cela dit, c'est... Ah ben, je vais vous dire un petit synopsis de ça. C'est que là, Godzilla et Kong, c'est comme des ennemis, puis s'en sont venus à... dire si Godzilla reste sur, c'est très bizarre à dire, mais sur la Terre, les humains le contrôlent pas, le surveillent, mais n'arrivent pas à le contrôler. Puis quand il arrive des monstres géants, peu importe d'où ils viennent, ça le réveille un peu, il va leur péter la gueule parce que lui veut juste garder ça de même. C'est sûr que quand il leur pète la gueule, il fait pas attention, il met les pieds. Là. Mais voilà, fait que c'est comme un protecteur, il veut personne d'autre sur son territoire. Puis à la fin de l'autre film, ils ont trouvé comme. Dans le centre de la Terre, c'est le, je sais plus comment elle appelle, Inner World ou quelque chose comme
Hollow
ça.
Hollow Earth, je pense.
Le comment?
Hollow Earth, quelque
ouais,
chose
genre,
comme ça.
Ouais, genre, c'est ça, OK.
La Terre creuse.
Genre. Ouais. Fait que là, Kong, il vit là. Mais il se sent seul, comme Sébastien Ricard. Mm-hmm. Fait que, pas Sébastien, son personnage quand même. Jean le menuisier. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, il se sent seul puis tout. Puis ce qui va arriver, c'est que par un malheureux hasard, il va réveiller un autre méchant singe caché quelque part dans une caverne ou autre surprise. Et là, ben ça va mettre le monde en péril. Fait que Kong va devoir aller chercher une alliance avec Godzilla. Mais c'est comme quand tu vas chercher l'ennemi de mon ennemi. Non, d'habitude, on dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami, mais ouais. Là, c'est plus l'inverse. Les deux ennemis vont s'affronter contre un plus grand ennemi qui pourrait être redoutable pour les deux parce qu'il faut qu'ils s'unissent, etc.
C'est comme un Royal Rumble pour les amateurs de lutte.
Ouais, c'est ça. C'est juste que le ring, c'est comme toute la Terre et même l'intérieur de la Terre. Il va y avoir une coupe d'humains au travers de ça, moins que dans les films précédents, ce qui est moins chaotique et ce qui est bien. Rebecca Hall reprend son rôle. On a l'arrivée de Dan Stevens aussi en espèce de... Je sais pas trop c'est quoi.
Scientifique, vétérinaire,
gangja.
Surfer.
Ouais. Qui se fait traiter à un moment donné de genre de Ace Ventura, puis c'est vrai qu'il y a le look un peu, là, avec ses chemises hawaïennes là-dedans. Et Brian Tyree Henry reprend son rôle là, d'espèce de podcasteur conspirationniste et tout, qui avait aidé à debunker, à mettre au grand jour là, tout le scandale. Dans le dernier film, il y avait beaucoup de trames comme ça. Là, on est plus straightforward. Mm. On est beaucoup avec aussi la fille adoptive là, du personnage de Hall, qui est comme une des dernières... la dernière qu'on connaît, personne des Premières Nations du clan de genre First Skull Island puis toutes ces affaires-là qui peut contrôler Kong. Fait que elle aussi cherche sa place sur la Terre maintenant. C'est une humaine bien normale à part de ça. Fait que là, elle va les aider là-dedans. Ils sont beaucoup au centre de la Terre, là, dans le Hollow Earth, à gérer ça puis aider Kong à... What the funk? Puis il arrive, comme on le voit dans la bande-annonce, un autre petit singe aussi qui va peut-être aider Kong à être moins seul. Écoute, on s'attendait pas à grand-chose, mais c'est pas, faut pas jeter le bébé singe avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est le film qui a coûté le moins cher de la franchise MonsterVerse à date, là, depuis qu'ils ont fait ça depuis 2014, depuis 10 ans. 135 millions quand même, mais l'argent est à l'écran. Mm-hmm. Les effets sont vraiment bien faits. C'est sûr que je sais plus si je peux dire que je suis épaté parce qu'il y en a tellement des films à grand déploiement. Souvent, c'est plus l'inverse. Quand c'est un peu en dessous, tu fais « ça passe mal ». Mais je trouve que les trucs sont cool. Mm-hmm. Il y a assez d'effets flyés, là, quasiment psychédéliques, beaucoup de couleurs fluo. T'sais, même dans la musique, je pense qu'il aurait voulu que ça soit dans les années 80.
Ouais,
mais c'est contemporain, mais avec une stylistique. Puis,
beaucoup de synthétiseurs. Hein.
Ouais, c'est ça. Stylistique visuelle et audio, très rétro. Puis, tu sais, tu vois pas pour les acteurs, là. Ce film-là, il se passe des événements puis des combats d'animaux géants pendant, mettons, 15 minutes. Puis après, à chaque fois que les humains parlent, c'est pour réexpliquer qu'est-ce qui vient de se passer pour être sûr qu'on comprend bien, puis dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais. C'est juste de l'exposition, tu sais, puis des petites blagues. C'est pas mal ça, surtout que le podcasteur Brian Tyree Henry a comme... Dans si tout ça était réel, il y a aucune raison qu'ils soient avec eux parce que c'est comme plein de scientifiques puis tout, puis c'est comme hey toi le podcasteur conspi viens nous aider, ouais. Alors qu'il y aurait bien des ressources plus
et qui est capable de tout comprendre, ouais, une civilisation perdue, leur technologie, tout ça en quelques secondes.
Exact. Mais il est en comic relief, oui, puis tu sais, ça donne un ton léger à toute l'histoire. Mais tu sais, je me suis pas emmerdé. Mm-hmm. Je le savais dans certains points ce que j'allais voir. Je pensais être déçu, puis j'ai pas été déçu. J'ai fait comme non, non, c'est le fun. Tu sais, c'est ouais. Il est bien fait au moins.
Oui, oui, non.
C'est pas bien écrit, mais il est bien ouais. fait.
Tu l'as bien dit. C'est pas un navet loin de là. What you see is what you get. Vous avez aimé les autres films de cet univers-là, vous aimez ce genre-là. C'est dans la continuité, là, avec les mêmes types d'archétypes de personnages. Puis, mais tu l'as dit, la force du film, c'est que ça, au demeurant, c'est que c'est bien fait. Les effets visuels sont bien, le son quand même impressionnant ouais. aussi. Là. Donc, ouais.
Puis, tu sais, ils sont pas tombés aussi dans le piège de durer 2h22 mm-hmm. parce qu'on a tellement de choses à dire. Puis c'est comme, non, non, ça dure 1h50 ouais. à peu près.
Donc, c'est très, ouais. très rythmé parce qu'il y a des combats aux 10 minutes, même pas aux 10 ouais, minutes, je pense.
Quasiment la première demi-heure là, est ouais. très action, un peu de ouais. qu'est-ce que King Kong fait, qu'est-ce que Godzilla fait, les humains, etc. Wingard a dit qu'il y avait une idée de suite pour un troisième volet qui aurait encore les deux géants, les deux kaiju ensemble.
Dans l'espace.
Ben non, il n'a pas dit c'est quoi son idée. Il a dit j'ai une idée, mais évidemment, tout va dépendre du box-office, de si on a le feu vert pour en faire un autre ou si on arrête ça là. Puis, fait qu'ils ont été très conservateurs. Puis justement, il n'y a pas de scène post-générique ou quelque chose que ça aurait été tentant de mettre un il n'est pas vraiment mort ou. Un nouveau méchant qui apparaît, etc. Là, je connais pas tous les kaiju classiques. Là. Mais ils en ont déjà tapé pas mal. Là. Ils avaient fait un Mecha Godzilla dans l'autre film d'avant. Puis moi, ça fait longtemps que j'ai pas revu l'autre d'avant. Là. Je l'ai pas réécouté. Je l'avais vu. Je me souviens, il était. T'sais, on n'arrêtait pas de fermer là, les cinémas à cette époque-là. Fait que j'étais allé le voir là, quand il avait annoncé genre le 1er avril ou le 2 avril, les cinémas doivent fermer. Fait qu'il restait comme 2 jours de diffusion. Puis j'étais comme ah, ça m'intéresse pas tant que ça, mais je vais y aller parce que je veux voir un film avant que les cinémas referment pour. Il avait fermé pour genre 2 mois. Là. Fait que ça fait très longtemps, mais je me souviens que j'avais trouvé ça chaotique. Un peu comme les Ghostbusters la semaine passée. Il y avait trop de personnages, fait que t'essaies d'aller à plein de places puis que tout se ramène, puis tu sais le personnage Brian Tyree, il était avec Millie Bobby Jones, puis là il faisait des conspirations au travers, puis fait que c'était lourd un peu pour rien. Là on est moins dans le, on est plus justement dans le scandale politique pis ces affaires-là, on est juste dans comme, hey, il y a des monstres, vite, il faut des plus gros monstres pour les frapper là. Fait que c'est un film qui peut ressembler à celui de Guillermo del Toro là, de
Pacific Rim,
tu sais, on revient plus dans cette veine là, tu sais, d'ailleurs en tout cas on le voit dans la bande annonce, voir une espèce de super update sur le singe pour l'aider à mieux se battre là. Voilà, t'as-tu autre chose à ajouter sur
non,
le Godzilla?
Non, je pense que t'as fait
est-ce
un bon
que tu
résumé.
Vas venir le voir 3-4 fois comme Dune ou
j'irai pas jusque là.
Dans les autres sorties, j'ai vu le documentaire 11 jours en février de Jean-Claude Coulbois. Qui retrace un peu l'histoire, ben pas l'histoire, mais les événements Claude Jutras. C'est-à-dire qu'en février 2016, il y a eu des allégations de pédophilie contre le cinéaste Claude Jutras dans une biographie que je me souviens plus qui a écrit, mais qui était quand même, Jutras était décédé 30 ans auparavant, il s'était enlevé la vie, mais c'est assez tragique quand même. Fait que c'est comme en 11 jours, tu sais, il y avait les prix Jutras, il y avait les parcs Jutras, il y avait une statue, il y avait une coupe d'affaires à Montréal et tout. C'était vraiment gros. C'est un des cinéastes, tu sais, pionniers, un fleuron, là, tu sais. C'est pas juste comme, ouais, t'es le premier à faire des films, mais il était vraiment bon, là, tu sais. Honnêtement, j'ai jamais vu, là, mais tu sais, mon oncle Antoine, puis tout, c'est encore vu comme des succès. Puis le film a pas la capacité de dire si c'était vrai ou pas, mais rappelle juste comme.
C'est en quelle année, ça? Je me rappelle plus.
C'était en 2016.
2016.
Ouais. Fait que c'est juste comme... C'est capoté qu'en 11 jours, il y a eu une espèce d'effet d'entraînement, boule de neige, qui a fait disparaître Claude Jutras de partout, tu sais. Puis, c'est juste une question de... D'habitude, on fait un procès puis tout, mais là, la personne qui il y en a deux, finalement, là, qui ont fait des allégations, ben, tu sais, on les croit parce que c'est pas léger, mais il y a jamais eu de procès comme tel. Puis lui, il est mort. Fait que là, c'est un peu comme... tu sais, Michael Jackson, là, comme là, tout est sorti par après, on fait quoi avec son œuvre, etc. Fait que, tu sais, c'est un peu ce regard-là de dire, ben, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais là, on l'a bousillé. Puis au Québec, c'est quand même rare parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie. Fait que souvent, écoute, probablement que pour y faire une statue, ça a pris 4 ans, mais pour l'enlever, ça a pris une journée, tu sais. Mm-hmm. Fait que, oui, on était sur le gun beaucoup, mais il n'y a jamais eu de preuve de rien. Fait que, tu sais, il y a une question aussi éthique là-dedans, ou juste morale, de ouais, mais on fait quoi avec ça, tu sais. Tu veux croire la personne qui le dit, mais en même temps, il n'y a pas de preuve. Fait que là, on annule tout, puis il n'y a pas de personne a le droit de réplique, puis ça va être ça, tu sais. Fait que, bref, c'est un peu ce que le documentaire apporte, sans avoir de réponse, malheureusement, à ça. Dans les autres sorties, ça, je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est nous qui aimons les films un peu différents. On aurait quand même trouvé plaisir à ça. Ouais. Fait que si j'ai l'occasion. Club Zéro de Jessica Hausner. On est dans une école secondaire élitiste. Il y a une enseignante qui va offrir un cours de nutrition très, très radical auquel va adhérer 5 de ses élèves. Puis que même leurs parents vont commencer à adhérer ça, mais ça a l'air. Tu sais, ça finit par de la. Pas de l'abstinence, là, mais on a une espèce de régime intermittent, mais constant de plus manger quoi que ce soit, avec Mia Wasikowska, qui fait cette dite professeure. Fait que c'est vraiment une espèce d'histoire qu'on veut provocatrice, qui est un peu dans l'air du temps de ce qu'on voit, un mélange de désinformation, mais aussi de la culture des diètes et tout, qui n'arrête jamais, puis qui fait quasiment amplifier, si on veut, maintenant, avec les réseaux sociaux, mm-hmm. comme on disait. Fait que c'est une satire quand même peu subtile dans cet aspect-là, mais moi, je trouve que ça a l'air quand même funné dans ce ton-là. Ça pique ma curiosité.
Puis film britannique, je me trompe pas. Fait que c'est...
Je pense que c'est plus de partout. Okay. Le premier producteur, c'est l'Autriche, mais j'ai vu Autriche, Suisse, Royaume-Uni.
Il y avait une sensibilité, un humour un peu british.
Mais peut-être, j'ai pas regardé sur Jessica Hausner, ouais. Peut-être qu'elle est britannique, puis ouais. Ça vient teinter ça, mais au niveau de la production, c'est vraiment un espèce de truc mondial, mais je sais pas, il a été tourné où, j'ai pas eu le temps, là. Nous ne sommes que mortels.
Tu me déçois.
Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est comme une semaine de 4 jours aujourd'hui. Fait que c'est ça. Il manque une journée pour un autre film. c'est ce qui conclut ce balado. La semaine prochaine, ça va être le 5 avril. Monkey Man, qui a l'air quand même vraiment cool avec Dave Patel, qui a l'air d'être un espèce de projet d'ego, là, mais soudainement, je réalise un film d'action, je joue dedans, puis je fais pas juste des drames, guys.
Un John Wick hindou.
Genre, mais américano-hindou. Ouais, ouais. Hâte de voir ça. First Omen, donc un prequel de film d'horreur, peut-être. Et Festin boréal de Robert Morin, que j'ai vu et que il m'a grandement surpris. J'ai hâte de vous en jaser. D'ici là, contactez-nous comme d'habitude au balado à commercial monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province et visitez le monciné.ca pour plus d'informations et pour d'autres articles comme celui que tu feras avec Rim Kérissi.
Ben sur ça, on vous souhaite bon popcorn, bon chocolat pour ceux qui vont prendre du chocolat, ça sera pas le cas pour toi, non. Ça je sais. Évidemment, bon film aussi. Et puis, si jamais il y a une grosse créature qui se présente dans votre ville, who you gonna call? Godzilla.